Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment les sargasses prolifèrent et impactent le vivant sur nos littoraux? Avec Pascal Jean Lopez.
On les connaît très mal. Lointaines, pour les Français métropolitains, elles sont tristement connues des habitants de nos territoires d'outre-mer qui subissent leur déferlement sur les côtes avec des conséquences sanitaires désastreuses pour la faune, la flore et l'humain. Elles, ce sont les sargasses. Et pour tout comprendre de leur origine à leur action, nous allons échanger avec Pascal Jean Lopez. Vous êtes écologue, directeur de recherche au CNRS et rattaché au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors là où elles passent, le vivant trépasse, mais les sargasses n'existent pas de toute éternité et ne sévissent pas partout. Dressez-nous la fiche d'identité de ces algues invasives.
Alors, sargasse, le mot sargassum vient vraisemblablement de l'espagnol sargasso, c'est à peu près le même mot en portugais, et ça signifie simplement le varec. En fait, les sargasses ont été identifiées, ou moins répertoriées comme telles, du temps de Christophe Colomb. Autour de ces années-là, où ils ont défini ce que l'on connaît sous le nom de la mer des Sargasses, à l'ouest des îles Canaries. Ils sont arrivés sur une grande étendue d'une mer qu'on appelle le sans rivage, cette mer des Sargasses, où il y a ces algues qui vivent en surface, on les appelle des algues pélagiques, puisque leur mode de vie, c'est cette interface entre l'eau et l'air, et elles vivent constamment en flottaison à la surface. Aujourd'hui, dans les sargasses et tous les problèmes sur les Antilles, on a trois espèces de sargasses, donc qui portent le nom de Sargassum fluitans et natans, et qui vivent toujours à cette interface. Alors, c'est des sargasses, c'est des algues brunes, et donc cette couleur est caractéristique, et puis elles ont des petits flotteurs en surface, et on différencie les sargasses en fonction de la taille des feuilles ou de petites structures à la surface de pneumatophores, leur structure flottante.
Donc elles sont très anciennes, mais là on en parle particulièrement parce que depuis 2011, on les voit revenir. Et 2023, vous m'avez appris que ce sera sans doute une année record en termes de masse échouée sur les plages, mais pour autant les sargasses, elles ne reviennent pas de façon exponentielle. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que les flux sont plus ou moins abondants? Et que comprenons-nous, au fond, des arrivées de sargasses?
Alors, la trajectoire des sargasses, si on regarde sur les temps historiques, il y a quelques cas où on avait vu des échouements de sargasses, déjà des années 50, assez localisés dans la Floride ou le nord du Mexique. Mais depuis 2011, on a ces processus d'échouement massifs, donc ces grandes quantités d'algues qui viennent sur les plages de toute la Caraïbe, hein, des petites Antilles jusqu'aux grandes Antilles, la Floride, tout le Mexique, le golfe du Mexique. Et elles viennent s'échouer là. 2011, c'est le premier événement, donc c'est la première fois où on en voit de façon massive. Depuis, il y en a eu de façon récurrente, quasiment toutes les années, sauf une année blanche. 2013, 2014, de mémoire, pas de sargasses, pas d'échouement. Mais quand même, globalement, les quantités que l'on voit et que l'on suit aujourd'hui de façon très précise par les images satellitaires, donc de la chlorophylle que l'on peut voir du satellite de ces sargasses, on voit que les quantités augmentent quand même globalement. 2018 a été une année record avec 20 millions de tonnes estimées sur l'océan Atlantique. Et 2023 sera une très mauvaise année puisque les quantités estimées sont sûrement de l'ordre de 2018, donc on est dans ces années records. Donc globalement, il y a quand même une mauvaise tendance à la hausse des quantités de sargasses qui s'échouent.
Mais d'où nous proviennent-elles? Pourquoi est-ce qu'elles arrivent comme ça?
Donc je vais parler des Antilles et de la Caraïbe, donc on est effectivement sur ces côtes américaines, mais on les retrouve aussi, ces phénomènes d'échouement, sur les côtes africaines. Et en fait, elles suivent un courant subéquatorial, donc elles partent de l'Afrique, elles passent au large du Brésil, elles remontent jusqu'au golfe du Mexique, et puis elles font ce cycle, et puis après elles retournent entre guillemets en Afrique. Et donc elles restent finalement dans cette petite mer des Sargasses, comme on voudrait l'appeler, et dans cette courantologie subtropicale en fait.
Et si elles sont arrivées en 2011, c'est donc que c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans la modernité. Est-ce que c'est la manière dont notre agriculture s'est modifiée avec des usages excessifs d'intrants? Est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer leur prolifération?
Ce qu'on a du mal à expliquer, c'est effectivement pourquoi 2011. On imagine que éventuellement à ce moment-là, c'est peut-être au moins en partie une modification de courants profonds qui sont remontés à surface et qui ont apporté des entrants, c'est-à-dire la nourriture à ces sargasses. Sinon, aujourd'hui, effectivement, vous avez parfaitement raison, les hypothèses les plus probables, c'est dû aux influences de l'agriculture, globalement de l'anthropisation du milieu, avec des apports dû à l'agriculture et au reste des activités humaines, de substances nutritives pour les sargasses. Alors, la nourriture à ces sargasses, qu'est-ce que c'est? En fait, ces sargasses, c'est des algues. Et donc, les algues, ce qu'elles ont besoin, c'est, comme toutes les algues, de la lumière, évidemment, pour faire la photosynthèse, pour grandir, pour grossir. Et puis, elles ont besoin d'aliments. Et parmi ces aliments, en fait, on peut caractériser des éléments importants comme le phosphate ou l'azote. Et donc ces apports en azote, c'est les mêmes phénomènes qu'il y a sur les algues vertes. On a beaucoup parlé, l'agriculture, elle a apporté effectivement beaucoup d'azote. Et donc on a eu ces grands problèmes d'algues vertes en Bretagne. Les sargasses, ça va être un peu la même chose en fait. On a une anthropisation générale de toute façon de la mer. Et là, pour les sargasses, l'azote et les apports en azote, notamment ce qu'on imagine de l'Amazone, dû à l'agriculture, qui vont dans la plume de l'Amazone, c'est-à-dire dans les effluents de l'Amazone, arriver dans le milieu marin et apporter ces éléments qui sont essentiels. Et on voit, de toute façon, quand on regarde la courantologie et les photosatellites, on voit que c'est quand même globalement au large de l'Amazone que les quantités de sargasses font ce qu'on appelle une inflorescence, c'est-à-dire qu'elles croissent de façon très importante. Et donc, c'est l'apport de nutriments issus de l'agriculture, vraisemblablement, issus de l'anthropisation du milieu au sens large, chose que l'on voit au large de l'Amazone, mais chose qui est vraisemblablement vraie autour et sur les écosystèmes côtiers de l'ensemble des pays.
Lors de vos enquêtes de terrain, vous prélevez ces algues en courant, paraît-il, tellement l'odeur est insupportable. Mais qu'est-ce qui se passe pour les riverains? Parce que eux, ils peuvent pas passer leur vie en courant loin d'elles. Quelles conséquences sanitaires subissent-ils? Et en quoi est-ce que les sargasses peuvent pourrir leur quotidien jusqu'à casser leur frigo?
Effectivement, ces sargasses, quand elles arrivent sur les plages et sur les côtes, elles commencent à fermenter. Processus de fermentation un peu en anaérobiose en fait, et qui va entraîner la production d'H2S, l'œuf pourri, et d'ammoniac en fait. Et donc on a de l'œuf pourri globalement en grande quantité sur les plages, et lorsque nous on va pour faire des prélèvements, pour analyser, regarder la composition de ces algues, pour en mettre dans nos tubes à essai, pour les ramener au laboratoire, eh ben on baigne dedans, je dis on marche dedans, j'ai marché dans des tas de sargasses qui m'arrivaient quasiment à la taille, hein. Imaginez les quantités qu'il y a, et donc on sature évidemment de cette odeur d'œuf pourri en fait, qui est dérangeant de façon transitoire quand je vais chercher un prélèvement, et qui évidemment pour les populations riveraines est une véritable catastrophe, puisque ben on a, indépendamment de l'odeur en tant que telle, il y a toutes ces émanations qui sont des gaz acides qui vont évidemment pour les populations, pour les travailleurs locaux, pour ceux qui viennent ramasser les sargasses, les enlever, à entraîner des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, des problèmes d'acidose, des problèmes de maux de tête. Ça peut aller jusqu'au vomissement dans certains cas. Et donc les pays suivent les populations riveraines, hein, notamment les populations à risque, les personnes âgées, les personnes isolées. Et donc ce gaz qui globalement bah, nous crée des problèmes respiratoires va aussi évidemment créer des problèmes de corrosion puisque c'est de l'acidité. Et donc ça a détruit tout en fait. Les télés ne marchent plus et puis les frigos et les congélateurs pour les personnes riveraines ben, tombent en panne simplement dû à cette corrosion. Cette corrosion elle se voit sur certains carbets en bord de plage, donc ce sont des petites habitations où on va se reposer ou déjeuner le week-end. La surface est noire on a effectivement cette présence d'acide qui arrive à noircir les surfaces et qui se voit de façon très claire avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
Évidemment, les sargasses, avant de s'échouer, elles sont dans l'eau. Donc, quelles conséquences pour les pêcheurs? Est-ce qu'ils continuent de pêcher ou est-ce que c'est dangereux pour eux aussi?
Moi, je vous ai dit, j'ai eu des sargasses jusqu'à quasiment la taille. Et donc, il y a des ports entiers et les pêcheurs ne peuvent plus travailler, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus sortir les bateaux. La pêche, hein, pour parler des Antilles françaises, est une pêche traditionnelle, donc c'est des petites embarcations. Il y a des ports entiers qui sont complètement bloqués en présence de sargasses et donc les pêcheurs ne peuvent plus simplement aller au large. Il y a eu pas mal de discussions sur le fait qu'il y ait des sargasses. Est-ce que ça changeait quelque chose pour les poissons? Est-ce que ça faisait un effet de réserve où les poissons étaient protégés globalement dessous ces grands radeaux de sargasses et on pouvait retrouver des populations plus importantes de poissons dessous? Bon, c'est peut-être vrai, mais en l'occurrence, pour la pêche, ça a des conséquences effectivement dramatiques. Et dans ces grandes périodes d'échouement, les pêcheurs tout simplement ne travaillent plus.
Et pour terminer le tableau noir de ce que ces algues produisent pour la vie de ces territoires, c'est évidemment les territoires qui vivent énormément du tourisme. Et là encore, si vous-même, vous n'avez pas envie de vous balader, j'imagine que ça a des conséquences pour les personnes qui pourraient y passer leurs vacances.
On ne va pas à la plage sur des plages où il y a des sargasses. Et donc, vu que les sargasses, les échouements concernent essentiellement les côtes au vent, comme on les appelle, c'est-à-dire face atlantique, et donc cette façade-là est bourrée de sargasses, on ne peut pas aller dans l'eau qui est marron. Indépendamment de l'odeur, l'eau est marron, l'eau est sale, et on ne peut pas marcher, et donc on a aussi plein de bêtes qui vivent en surface. Donc ça a un impact assez grave pour le tourisme, et aujourd'hui ça a déjà des impacts évidemment pour l'économie du tourisme, mais aussi pour l'immobilier, puisque acheter une maison qui est sur des plages, qui reçoit des sargasses, évidemment le coût de l'immobilier change.
Donc on voit évidemment comme quoi cette petite algue peut changer du jour au lendemain la vie entière des habitants de ces territoires. Et donc se pose la question, que faire des sargasses? Parce qu'on ne peut pas les laisser s'entasser sur les plages, on ne peut pas les brûler. Les valoriser, c'est pas facile, mais c'est pas impossible pour autant. Est-ce que vous pourriez nous dessiner une ligne de crête pleine d'espoir, si possible, à propos des sargasses?
Non, les sargasses, c'est un vrai problème puisque, tout simplement, les ramasser, comme on peut l'imaginer, c'est pas facile. Elles sont soit sur la plage, et dans ce cas-là, quand on ramasse beaucoup de sable. Et donc, on peut imaginer que valoriser une sargasse, c'est aussi avec des problèmes de sable qui sont avec. Il y en a quand même beaucoup qui restent sur le bord, en fait, et donc ils sont encore dans l'eau. Et donc, le problème, c'est ramasser les sargasses, c'est déjà difficile. Alors, on a inventé des sargassors, qui sont des bateaux qui vont chercher des sargasses au large et qui les ramènent pour avoir des sargasses exemptes de sable. Après, un problème des sargasses, avant comment les valoriser, c'est que ces algues, malheureusement, ou c'est leur physiologie, elles sont capables d'accumuler ce qu'elles trouvent dans l'environnement et elles ont une accumulation importante d'arsenic, notamment. Et donc le fait qu'elles aient de l'accumulation d'arsenic bloque évidemment les process que l'on peut imaginer de valorisation puisqu'il y a ce métal lourd qui est présent dans les sargasses. Aux Antilles françaises, une autre petite particularité, c'est la présence de chlordécone sur certains sites. Hein. C'est un insecticide qui a été utilisé donc dans les Antilles françaises. Donc indépendamment de ce problème de pollution, maintenant qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a des choses qui ont été essayées, c'est de les utiliser en tant que produit. C'est-à-dire éventuellement, dans ces algues, il y a de la matière organique qui pourrait être intéressante et qui pourrait aider à enrichir. Il y avait des essais qui ont été faits, c'est de simplement dépendre les sargasses dans des sols pour l'agriculture. Est-ce que ça va changer la croissance? Le problème, c'est que, évidemment, c'est une algue, elle vient de la mer, donc il y a plein de sel. Donc si on veut les valoriser en tant que tel, il faut déjà un peu les dessaler pour pouvoir en faire quelque chose. Nous, on avait essayé avec un industriel local, en Martinique en particulier, de les utiliser comme la matière première en tant que telle pour faire de l'amendement organique. Donc on mettait un peu de sargasse dans beaucoup d'amendements organiques d'origine végétale et ça marchait. C'est-à-dire qu'on peut arriver à les utiliser pour faire de l'amendement organique et donc s'en débarrasser un petit peu. Et après, il y a plein de voies de valorisation qui sont développées aujourd'hui. La réalisation de plastique à base d'algues, hein, c'est en vogue pas seulement aux Antilles. On l'utilise en tant que matériel. On essaye de les mettre dans les routes, on essaye de faire des briques avec de la sargasse pour faire des maisons en sargasse. Et on a essayé des voies de valorisation pour essayer de faire de l'énergie, formation de méthane, voilà. Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas trouvé dans les sargasses de molécules d'intérêt à haute valeur ajoutée. Mais il y a plein de voies qui sont travaillées. Juste pour en donner deux dernières, c'est éventuellement d'utiliser sargasse pour faire de la purification, c'est-à-dire capter certains métaux lourds ou faire de la filtration. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent de façon intéressante sur les organismes associés aux sargasses, notamment les bactéries, pour leur capacité à faire métaboliser le soufre dans le but d'y faire des piles. En fait, utiliser les micro-organismes pour faire des piles biologiques, et là peut-être qu'il y a des voies qui sont intéressantes à développer, pas tant pour la sargasse, mais pour qu'est-ce que la sargasse apporte avec elle.
Si on laissait les sargasses se décomposer toutes seules sur le littoral, quelles seraient les conséquences sur son écosystème et la biodiversité ?
Alors, se décomposer, c'est quand même globalement un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui n'ont pas les capacités et les moyens financiers de pouvoir ramasser les sargasses, et donc on laisse globalement les sargasses se décomposer toutes seules. Il faut savoir que si on revient effectivement après, elles finissent par disparaître toutes seules. Donc on peut retourner sur les mêmes plages sans voir effectivement de différence fondamentale, mais c'est le sommet de l'iceberg, c'est globalement la mer reste encore bleue longtemps après, on ne voit pas grand-chose, mais on sait que les sargasses véhiculent avec elles une quantité importante d'organismes, il y a plein de bactéries associées, et ces organismes pourront avoir sur le moyen-long terme des effets sur la modification de la biodiversité locale, hein, donc autour des plages, éventuellement sur certaines chaînes trophiques, sur certains écosystèmes en particulier.
Je ne vous remercie pas dans la mesure où vous ne nous avez pas complètement rassuré sur les sargasses. En revanche, merci infiniment de nous avoir mieux fait comprendre comment elles apparaissent, comment elles évoluent et malgré tout, comment est-ce qu'on pourrait les valoriser à l'avenir. Merci beaucoup, Pascal Jean Lopez.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Pascal Jean Lopez, écologue, directeur de recherche au CNRS rattaché au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.